gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquet, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Parti pour la causerie ce soir sur Radio Canu. Et autour de la table, nous avons Jean-Yves.
Bonsoir.
Fab.
Bonsoir. Tu fais des blagues, toi.
Bah oui. On a Clara la technique.
Bonsoir.
Et Jonathan.
Évidemment.
À l'ouverture.
Bah oui, tout à fait. Et puis, bah, on fait un coucou à celles qui ne sont pas présentes.
Mais il faut que tu le fasses dans le micro, le coucou. Sinon, elles n'entendront rien.
Donc, un coucou à Nadège.
Coucou. Alors, il faut voilà.
Pas déconner. Un coucou à Emma.
Bah, coucou. Et coucou.
Voilà.
Voilà.
Et okay, moi, j'ai deux petites dédicaces à faire en début d'émission.
Ok, vas-y, bien sûr.
Pardon. Alors, je vais dire bonjour à Shanice qui nous écoute, qui peut nous réécouter enfin de Jamaïque. Elle est très contente. Alors, un petit coucou à elle. Et un petit bonjour à Pierre qui se reconnaîtra. Voilà.
Super.
C'était mon moment à moi, pardon.
Un message pour vos pépés, mémés, amants,
amantes. Poisson rouge.
Ah, vas-y.
Poisson rouge. Je vais saluer mon poisson rouge.
Ok.
Oui, Bubule.
Oh, Bubule.
Okay. Ok, bon.
Et donc, vous savez que vous pouvez toujours contacter la causerie, soit par mail, alors.
Elle me regarde.
Bah oui, je te regarde, mais je peux regarder Jean-Yves.
Ok,
aussi.
Bon, moi je peux donner le mail. Le mail, c'est la causeriecanu@gmail.com.
Et puis aussi, on peut nous retrouver sur le site de Radio Canu, au blog de Radio Canu.
Ouais, à blogs.radiocanu.org/lacauserie, tout et attaché.
Puis aussi sur Facebook.
Ouais, mais c'est vrai. Ça, c'est plus pour faire de la promo, comme toute bonne émission qui a envie d'être connue interstellairement.
Bah ouais, et puis on a envie de se faire des millions, quoi. Je veux
évidemment,
dire, c'est notre démarche première. Enfin.
Ah bah, non, mais c'est tout à fait dans le sujet. Ce soir, Fabien, tu nous parles d'ailleurs d'une.
Des millions.
Des millions et des millions.
Qui veut gagner des millions? Pas du tout.
Non.
Mais je parle d'institutions qui brassent des millions, voire des milliards.
C'est ça.
Parce que j'ai... Oui, bah merci pour la transition d'ailleurs. Donc, parce qu'en fait, j'ai envie de ce soir de revenir... Alors, comme c'est le week-end pascal, ça tombe plutôt pas mal. De revenir sur le fait que quand quelqu'un me dit « Joyeuse Pâques » ou « Joyeux Noël », je lui réponds « C'est gentil, mais moi, ça me parle pas ». Voilà. Et en général, quand je réponds ça, ça donne lieu à « T'es pas très tolérant ». Voilà. Donc, je la fais courte, mais c'est souvent à peu près ce qui se fait. Alors, pourquoi ? Parce que en plus d'être un athée, revendiqué. Oui, je vais vous parler de moi ce soir un peu. Je suis en plus un peu un bouffeur de curé, comme on disait avant, ou même un bouffeur d'imam ou de rabbin, d'ailleurs, enfin, de tout ce qui passe. C'est-à-dire, je suis un anticlérical. Ouh là, ça, c'est un vilain mot. Alors, on va essayer de revenir un petit peu sur les définitions quand même, parce que il y a des mots qui ont été aujourd'hui, du fait justement du poids du religieux, transformés en mots oppressifs alors qu'ils ne le sont pas. Voilà, donc j'ai envie de remettre un peu les pendules à l'heure ce soir. Donc j'ai déjà rappelé ce qu'est le matérialisme, hein, parce que voilà, le matérialisme c'est simplement le fait de croire qu'à ce qu'on peut prouver. Voilà, pour faire simple, c'est ça le matérialisme, c'est-à-dire que quand on vous prouve que quelque chose existe, il n'y a aucun problème, ça existe, et c'est comme ça que ça marche. Quand on ne vous le prouve pas, et qu'on vous dit juste « il faut avoir la foi », vous avez tendance à dire « c'est ça ». Voilà, et donc, oui.
Mais c'est aussi quelque chose qui, au-delà de la religion, se démontre aussi avec l'homéopathie, par exemple.
Oui, oui, c'est toute croyance, en fait. Voilà. C'est au-delà du religieux, c'est le fait, le matérialisme, c'est le fait de ne croire qu'à ce qui est démontré, en fait, voilà. Donc, essaie d'être toujours, en fait, le matérialiste dans une interrogation permanente, parce que, bah, par définition, vous remettez en cause tout ce que vous pensez vrai en permanence, parce que d'autres choses peuvent vous amener à douter. Parce que, bah, je vais donner un exemple, hein, on avait Georges la semaine dernière, c'est ça ? Ouais.
C'est
oui,
ça.
La semaine dernière. Et Georges disait, bah, jusqu'en 1923, on pensait que l'univers, c'était la Voie lactée, et puis d'un coup, on a découvert que l'univers était des milliards de fois plus grand. Et bah, c'est ça, c'est-à-dire que le matérialiste, il va se dire, bah, c'est la Voie lactée qui est l'autre limite parce que j'ai la preuve que je peux voir jusque-là. Et puis quand on lui démontre qu'il y a quelque chose plus loin, bah, il dit pas, non, c'est pas vrai, parce que pendant des siècles, j'ai cru ça, alors ça peut pas. Non, il dit, bah, ok, tu me l'as prouvé, c'est vrai. Vous voyez ? Petite différence entre la croyance et le matérialisme, et en fait, le fait de se poser des questions en permanence. Donc voilà. Et le matérialisme repose sur une phrase très célèbre, voilà, d'un des plus grands penseurs philosophiques politiques, qui était Bakounine, qui disait que seul le doute est révolutionnaire. Et Bakounine disait ça parce que il disait que même la science doit être remise en question. Elle ne doit pas devenir un dogme. Voilà, c'est donc le principe de douter tout le temps, de se poser des questions, de creuser. Voilà. Ça, c'était pour le matérialisme. Alors maintenant, on va passer à l'anticléricalisme. Oula, quel vilain mot. Alors, il y a des gens qui croient que les anticléricaux, ce seraient des gens qui, la nuit, se mettraient, je ne sais pas, à vouloir chercher tous ceux qui croient pour les brûler ou je ne sais quoi. Ça, c'est un peu le truc que fait passer la religion catholique, en particulier en France, qui, dès que vous dites quelqu'un qui est anticlérical, va vous dire « Ah, en fait, vous voulez tuer des curés ». Alors, c'est pas du tout ça. Là, on va se calmer tout de suite. L'anticléricalisme, c'est un mouvement très ancien. Va pas tant que ça, en fait, parce que en tant que mouvement structuré, il date après la Révolution française pour la France. Et en Europe, il se structure à partir du XVIIe siècle par les penseurs qui commencent à avoir une vision très, comment dire, radicale, et qui se rendent compte que la religion n'est finalement qu'un système d'oppression politique et que ça n'a strictement rien de magique ou de choses comme ça. L'un des premiers grands penseurs de l'anticléricalisme est un curé qui s'appelle Jean Bellier. Et voilà, et là Jean-Yves est content parce que je l'ai placé. Mais c'est surtout que c'est vrai, c'est-à-dire que le premier qui a écrit qui a décortiqué en fait ce qu'elle était l'outil oppression qui était la religion, c'est Jean Bellier qui est allé au bout de sa pensée et qui est allé au bout de l'athéisme. Alors ça, je parle pour l'Europe parce qu'il y a d'autres endroits dans le monde où il y a d'autres penseurs qui sont allés dans les mêmes directions. Mais je vais pas vous faire une liste là, tout simplement parce que j'ai pas le temps. Voilà. Mais je vais vous donner ceux qui sont le plus facilement accessibles. Donc ça, c'est l'anticléricalisme. Alors l'anticléricalisme, c'est, comme vous l'avez compris, le fait de combattre tout ce qui utilise la croyance pour l'ordonner, c'est-à-dire créer une religion, afin de prendre le pouvoir. Parce que le pouvoir religieux, pour les anticléricaux, c'est un pouvoir politique. C'est pas un pouvoir qui est donné par Dieu, vu qu'en général, ils croient pas vraiment en Dieu. Alors par contre, vous pouvez être anticlérical et croyant. Ça, c'est possible. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait être anticlérical et croyant. C'est d'ailleurs la base du protestantisme. Au départ, avant qu'il redevienne une religion avec des temples et tout. Mais au départ, c'était l'idée que vous prenez le texte et vous vous débrouillez tout seul. Vous n'avez pas besoin de la religion. En tant que, enfin, du système religieux,
oui, pardon. Il y a peut-être une structuration.
Une structuration cléricale, et donc vous pouvez sortir, mais vous pouvez rester croyant. Donc vous n'êtes pas forcément athée et anticlérical, c'est pas obligé. Vous pouvez être anticlérical en étant croyant. Mais moi, en fait, je cumule. Moi, je suis athée et anticlérical. Donc en fait, toutes les religions me posent un problème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour les anticléricaux, les religions ont, disons les anticléricaux athées, je vais dire ça clairement, pour les gens qui sont matérialistes en plus d'être anticléricaux, on a comme vision en fait l'idée que la religion est un outil d'asservissement. Et c'est pour ça que souvent, les anticléricaux qui sont athées se définissent plutôt comme antithéistes. Et voilà, c'est là la petite nuance. C'est-à-dire que les anticléricaux croyants vont juste se dire anticléricaux. Il faut abattre la religion, mais il faut continuer à croire en Dieu. Donc ils vont plutôt se dire agnostiques, généralement, et ils vont plutôt dire, moi je crois à ce qui est écrit, et voilà, j'en fais mon interprétation. Par contre, quand vous êtes matérialiste et anticlérical, généralement vous vous dites antithéiste. Antithéiste, c'est tuer les dieux, hein. Comme littéralement, c'est ce que ça veut dire. Alors, je rassure tout le monde, comme on n'a toujours pas trouvé où était le monsieur sur le nuage, on ne va pas aller le tuer physiquement, mais c'est tuer l'idée de Dieu, c'est-à-dire tuer l'idée qu'il y ait quelqu'un au-dessus de notre tête, et qui jouerait avec nous.
Ses règles et ses dogmes, en fait, dirige les vies des gens. En fait.
C'est ça, voilà, exactement. Et donc ça, pour les antithéistes, eh ben, c'est la fameuse formule, hein, ni Dieu ni maître, qui n'est pas propre aux anarchistes, hein, contrairement à ce que les gens croient, mais qui a été reprise par les anarchistes. La formule ni Dieu ni maître, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maître sur terre, donc voilà, vous savez ce que ça veut dire, il faut abattre le salariat, tout ça, et il n'y a pas de maître dans les cieux qui nous guide, donc il faut apprendre à prendre sa vie en main. Voilà, ça c'est l'antithéisme. Donc, vous voyez, jusque-là, j'ai pas parlé encore d'aller égorger des curés, des imams ou des rabbins. J'ai juste parlé en fait d'avoir du débat d'idées. Parce que c'est ça en fait la base de l'anticléricalisme, c'est que ça se base sur le débat d'idées. Généralement, et ce depuis une tradition très ancienne, qui date à peu près de 250 ans, les anticléricaux, alors à une époque, s'en sont pris effectivement en France physiquement, au curé, tout ça, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, ils étaient un petit peu à la tête de l'État. C'est pour ça qu'ils étaient cul et chemise avec l'État. Donc il y a eu effectivement des affrontements avec une force politique qui était représentée par la religion catholique. Aujourd'hui, on voit qu'on est dans un pays plutôt sécularisé, où globalement, la religion arrive à être un petit peu éloignée. Alors je dis un petit peu, parce que pour nous, anticléricaux, elle n'est pas assez. C'est-à-dire que voilà. Alors je vais dire tout de suite quelque chose qui ne va pas plaire à beaucoup de gens. Dans l'extrême gauche et une partie des anarchistes, il y a des gens qui disent « croire c'est pas grave tant que les gens le font chez eux ». Et ils ont l'impression comme ça qu'ils sont super révolutionnaires, parce qu'ils disent « chacun est libre de faire ce qu'il veut ». Ben pas pour moi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça, ce n'est que la définition de la laïcité républicaine. Et personnellement, la laïcité républicaine, ça me convient pas. C'est pas suffisant. C'est un minimum pour moi. Oui, vas-y.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que ça ne te convient pas dans le fait que chacun...
ça ne me convient pas dans le fait que ça permette aux religions de continuer à exister.
Voilà, c'est ça que je voulais...
C'est un sens-là, c'est un que je le dis. Oui, pardon, merci d'avoir m'avoir poussé à préciser. Parce qu'en fait, on est dans la définition de la laïcité républicaine, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut chez lui. Sauf que quand on est antithéiste et anticlérical, qu'on est matérialiste, et qu'on veut en plus, parce que c'est mon cas, abolir toutes les oppressions, on se rend bien compte que si on dit ça, on dit juste aux gens « Ah bah il peut être opprimé, mais que, que chez lui ». C'est-à-dire que, bah oui, parce que si la religion dit « le père de famille prévaut sur la mère de famille, et puis si t'es une fille, tu vaux moins qu'un garçon », bah ça s'est dit, mais ça va tant que c'est chez eux. Bah non, ça va pas, parce que pour moi ça me pose un problème, parce que vu que je veux que tout le monde ait les mêmes droits et les mêmes libertés, je peux pas me contenter de dire tant que c'est chez eux, ça me dérange pas. Parce que si, ça me dérange, parce qu'il y a des enfants, parce que les enfants choisissent pas, parce qu'on est dans la religion, on ne la choisit pas généralement, on y naît, enfin voilà. Et que, donc, j'ai le droit, moi, d'interroger ce système-là. Et c'est ça en fait l'anticléricalisme, c'est pouvoir dire ce système-là me pose un problème. Ça ne veut pas dire qu'on va aller voir toute personne croyante pour lui hurler dessus, mais ça veut dire que si quelqu'un vient vers vous avec ses principes religieux, vous êtes en droit de lui dire « non seulement je ne crois pas, et pour moi, ce que tu crois est oppressif ». Vous le faites avec les fachos, hein. Vous le faites avec les racistes, vous le faites avec les sexistes, vous le faites avec toutes les personnes que vous estimez oppressives. Mais là, d'un seul coup, parce que ce serait religieux et que ça relèverait de la foi, ce truc un petit peu suranné qu'on met à toutes les sources, vous n'auriez pas le droit de dire « ce que tu dis me pose un problème ». Eh bien si, vous avez le droit. C'est là la différence, c'est-à-dire que la laïcité à la républicaine, elle permet justement de dire « vous n'avez quasiment pas le droit de faire ça ». La loi de 1905, elle dit « chacun a le droit à son culte et doit être protégé dans son droit du culte ». Et en fait, ça c'est une phrase qui a été rajoutée par les cléricaux à l'époque. C'est une phrase qui permet de dire « vous ne pouvez pas critiquer un dogme ». Vous voyez le truc? Alors ça, c'est complété avec la liberté d'expression qui permet justement de le faire. Et tant mieux. Mais si vous prenez la laïcité telle qu'elle, en réalité, elle est plus protectrice globalement des gens qui croient que des gens qui ne croient pas, ou des gens qui doutent. Et ça, c'est un petit peu problématique. C'est pour ça que la laïcité républicaine ne me suffit pas, personnellement. Et que je vais plus loin, en fait, méchant comme je suis. Et donc là, on va me dire, oui, mais tu dis ça, mais jamais les gens, ils viennent vers toi pour te parler de religion. Tu rigoles ou quoi, là, ou ami auditeur ou ami auditrice qui aurait pensé ça là, dans les deux minutes?
Ça n'arrive pas tant que tu n'affirmes pas...
Que tu n'es pas croyant.
Que tu n'es pas croyant.
Alors, dès que tu dis que tu n'es pas croyant...
Il y a plein de gens qui viennent te parler de leur religion dans la rue...
Mais dans la vie de tous les jours, quand tu dis que tu n'es pas croyant, tu peux être sûr que tu vas avoir la question... Mais comment tu fais? Parce que tu crois qu'après la mort, il n'y a rien. Et attends, mais tu penses vraiment qu'il n'y a pas de destinée? Mais attends, il t'est arrivé un truc, une tuile, il y a 15 jours, tu crois que c'est pas parce qu'il t'était arrivé une autre tuile il y a 15 jours avant? Bah non, c'est parce que j'ai une vie de merde, mais ça, ça n'a rien à voir. Vous voyez, mais c'est ça. Et en fait, les questions théologiques sont mises sur la table en permanence. Contrairement à ce qu'on croit, en permanence, il y a des questions théologiques. Je vais vous donner deux exemples très concrets. Vous avez quelqu'un qui arrive et qui vous dit, vous êtes au travail par exemple, un collègue ou une collègue qui arrive et qui vous dit « Hey, c'est super, hein, alors tu fais quoi pour la fête de Pâques ?» Bah oui, ça tombait bien, c'était dans le sujet. Alors vous lui dites rien, je profite du jour férié et puis je bouffe des chocolats parce que ça c'est un peu païen, mais le reste je vais rien faire de spécial. Hein. Ah bon, mais tu vas pas à la messe ? Voilà. Et là on rentre dans le questionnement de devoir vous justifier du pourquoi vous, vous ne suivez pas le dogme majoritaire en France, qui d'ailleurs ne l'est pas. Je vais rappeler un chiffre. En France, il y a 65% de gens qui sont soit agnostiques, soit athées. 35% d'athées et 30% d'agnostiques. Ça veut donc dire que les religieux, dans leurs ensembles, les croyants, dans leurs ensembles, sont minoritaires. Pourtant, vous allumez la télé, et là, qu'est-ce qu'on vous parle de la fête de Pâques, du machin? Quand c'est le Ramadan, on vous signale que c'est le Ramadan. Quand c'est la Pâque juive, on vous signale que c'est la Pâque juive. Maintenant, on vous fait même la Pâque orthodoxe et la Pâque de l'église arménienne. Quand c'est la nouvelle année en Chine, c'est la nouvelle année en Chine. En fait, on vous parle en permanence de religiosité, tout le temps, en permanence. Et en fait, vous n'avez quasiment pas le droit de la critiquer. Parce que quand vous commencez à la critiquer, on vous dit que vous êtes intolérant. C'est-à-dire que par principe, quand vous dites « Mais moi, tu sais, je ne crois pas à tout ça, donc je ne vais pas participer à tes grandes fêtes votives. » Ah non, pardon, ce n'est pas des fêtes votives, c'est des fêtes pieuses. donc oui, votives, c'est qu'on fait vraiment, vraiment beaucoup la fête. Et pour des raisons païennes. Voilà. Et donc, en fait, du coup, on dit « Non, ça ne m'intéresse pas, en fait. » Vous avez le droit de dire que ça ne vous intéresse pas. Alors, vous avez deux choses en France où vous n'avez pas le droit, la religion et le foot. Hein. Si vous dites que vous n'avez pas le foot, c'est à peu près le même effet. Et en fait, c'est ça. C'est que d'un seul coup, on vous ramène à votre statut, finalement, de mécréant. Sans vous le dire ouvertement. Et de personne à convertir. Et les gens le font très facilement. La personne croyante va commencer à vous expliquer, à vous poser 1000 questions. Mais alors pour toi, il n'y a rien au-dessus de nous. Et comment c'était avant le Big Bang, hein? T'en sais rien? Ben non, je sais pas, mais c'est pas parce que je sais pas qu'il n'y avait pas quelque chose avant. Et un jour, je saurais ce qu'il y avait, mais pour l'instant, j'en sais rien. Oui, c'est ça le truc. Donc je voulais juste rappeler que globalement, il est beaucoup plus difficile, contrairement à ce qu'on croit, d'être ouvertement athée et d'être ouvertement contre le système religieux que de croire en France, et qu'aujourd'hui c'est un problème. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'on a quand même 35% de personnes en France, d'après les chiffres de l'INSEE, bah, qui se retrouvent à devoir faire gaffe quand ils parlent. Et c'est un peu problématique, parce que les gens ont l'impression que c'est secondaire, sauf que ça l'est pas tant que ça. Quand on vous ramène systématiquement au fait que vous seriez intolérant parce que vous refusez tel truc ou tel truc, que vous ne voulez pas entendre parler de telle ou telle fête, que moi personnellement je le dis ouvertement parce que je le dis même à la radio, ça me fait chier qu'on parle des fêtes religieuses à la télé, à la radio, dans les journaux. Je m'en tape. C'est pas ma vie. Je m'en fous complètement. Qu'est-ce qu'un journal laïque, qu'un journal qui n'est pas un journal ouvertement religieux, qu'on en parle dans La Croix, ça me pose pas de problème, mais qu'on a d'en parler dans Le Progrès, par exemple, c'est pas le journal que je lis en même temps, mais ou n'importe quel autre journal, je comprends pas. Qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce que ça vient être là? Je veux dire, à chaque fois, on nous donne la date de début du Ramadan. Bah, je suis bien content, mais personnellement, je m'en fous. Je veux dire, si la personne, elle est croyante, elle a pas besoin qu'on lui donne dans les médias. Normalement, c'est dans sa mosquée qu'elle va savoir la date du début et de la fin du Ramadan. Ça la regarde elle, ça me regarde pas moi. Qu'est-ce qu'on vient me faire chier avec ça? Qu'est-ce qu'on vient me faire chier avec la Pâque juive? Qu'est-ce qu'on vient faire chier? Vous voyez ce que je veux dire? Et si moi, par contre, je viens dire, bah, tiens, je voudrais qu'il y ait un jour qui soit un jour férié pour être le jour des personnes qui ne croient pas, alors on va dire le jour des, je sais pas, on pourrait
des libres penseurs,
des libres penseurs par exemple, mais c'est un peu ouais, connoté, mais allez, le jour des athées, tiens, ben vous allez voir la levée de bouclier que vous allez avoir, parce qu'on veut dire mais c'est, vous voulez imposer votre façon de voir le monde. Vous croyez pas qu'en fait on cherche plutôt à nous imposer l'inverse depuis des années et qu'on continue à nous imposer l'inverse? Voilà, donc c'était un peu mon coup de gueule parce que j'en ai un peu marre de qu'on me dise toujours oui t'es intolérante, t'es méchante, t'es ceci, t'es cela. Mais je vais avouer un truc. Comme je suis anticlérical, j'aime bien me moquer des religions quand même. Il faut dire ce qui est. Parce que ça vaut le coup. Alors, je vais vous faire un sermon. Oui. Et normalement, magie de la technique. Oh, ça marche ou pas? Bah, ça marche pas. Bon, bah alors, tant pis. Hein. On va faire sans. Je l'avais préparé, alors je vais vous le faire quand même. Parce que normalement, on avait un effet cathédrale pour faire un truc un peu à la Monseigneur Barbarin, tout ça. Voilà. Mais ça veut pas marcher. Oh, ça marche pas. Bon, bah tant pis, ça marche pas. Alors, je vais vous faire mon sermon. Donc, je vais vous dire comment on pourrait imaginer un sermon honnête de la part de la religion catholique. Je précise bien que c'est la religion catholique. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous voilà réunis aujourd'hui dans cette église pour prier ensemble. Prier, certes, pour tous les hommes, mais n'oublions pas qu'il y a une catégorie des gens qui sont légèrement inférieurs, qui s'appellent les femmes. Donc, nous prierons pour les hommes et un peu moins pour les femmes, qui, je vous le rappelle, dans la Bible, ont été désignées comme étant là pour procréer uniquement et être au service des hommes. Et afin que nous soyons tout à fait clairs, nous ne prierons pas pour les homosexuels, car les homosexuels, comme c'est écrit dans la Bible, ne sont qu'infamie. Et comme pour être encore plus clair, l'homosexuel vaut moins que le meurtrier, c'est écrit aussi dans la Bible. Vous pardonnerez à votre prochain, sauf s'il n'est pas de votre religion, car dans ce cas-là, il est un mécréant et il ne mérite pas, finalement, d'être pardonné. Enfin, vous pouvez avoir de la miséricorde, parce que la miséricorde, c'est un truc sympa qu'on a inventé pour vous laisser un peu croire que vous pouvez aimer votre prochain, mais pas trop. Parce que la miséricorde, ça a ses limites quand même. Il ne faut pas déconner, c'est écrit dans la Bible, hein, vous irez lire. Et accessoirement, comme c'est la Pâque et que votre sauveur est ressuscité et que vous avez envie de le retrouver, mangez-le. Eh oui, venez manger son corps parce que c'est ce qu'on bouffe généralement, et boire son sang parce que c'est ce qu'on aime bien faire. Et surtout après, allez condamner toutes les cultures qui étaient soi-disant cannibales. Bon, voilà, c'était mon petit sermon réaliste et c'était pour me moquer un tout petit peu. Je suis désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Et je vais même continuer avec une chanson un peu moqueuse. C'est pas bien, mais je pense que ça va vous plaire. Allez, à tout de suite. Ça marche toujours pas. Bon, c'est pas grave. Alors, Radio Canu, la causerie, on essaye de faire un effet cathédrale qui ne marche pas, mais c'est pas grave du tout. Vous venez d'entendre les René Binamé avec « Jésus, t'es naze, arrête ». Voilà. Et ça fait du bien. Voilà. Je m'en passerai d'autres.
Bah oui. Bah René Binamé.
Ouais.
Quand même.
Un big up à René Binamé. Voilà. Parce que c'est un nom, mais c'est vraiment un groupe que j'adore. Voilà. Et donc, pour continuer dans des choses totalement interdites par les religions, nous allons donc parler du clitoris.
Bah oui, mais j'allais dire pour continuer à parler de choses sacrées, mais...
Ah oui, aussi on pouvait le faire comme ça.
Alors, en effet, on va parler du clitoris. Pourquoi il faut parler du clitoris, hein? Pourquoi? Bah parce qu'on n'en parle pas. Je vais quand même citer une référence de base en la matière. Marie-Claire.
Ça c'est hard.
Magazine Web. Donc, qui, dans une de ses rubriques récentes, Amour et Sexo, dit, je cite, « Aujourd'hui, le clitoris s'est détaché de son image secrète et s'est débarrassé de tous ses tabous. » Point d'exclamation. À tel point que de nombreux féminins, sous-entendu magazine périodique féminin, n'hésitent pas à placer le clitoris en une de leurs couvertures.
J'en ai pas vu beaucoup, moi, perso.
Moi non plus. Alors... Je pense que c'est le mot clitoris.
Ah,
voilà.
Ok.
Parce que c'est chez les femmes en général, on a tendance à commencer à s'intéresser à notre organe sexuel un petit peu plus quand même. Enfin, pour faire comme dans Sex and the City, quoi. Je suis indépendante, je suis libérée, je suis super bien dans ma peau, donc je vais regarder entre mes cuisses. Enfin, de toute manière, mon père me l'avait interdit, mon frère aussi, mon mari va pas tarder à le faire, donc j'ai 5 minutes de liberté, je vais m'occuper de moi. Et donc, on s'aperçoit en effet que c'est quelque chose qui est quand même très caché. Alors bon, quand on va sur Google, qu'on tape clitoris en image, on a de tout. On a tout, on a de l'image d'un site porno, de l'image anatomique, de l'imagerie. Et puis c'est pas forcément toujours hyper bien fait parce que ça ressemble pas vraiment à ce qu'on voit dans la réalité. Un dessin anatomique, hein, c'est pas. Et puis sachant qu'on n'est pas toutes faites pareil, des fois c'est un petit peu compliqué de retrouver la géographie. Enfin voilà. Donc pour nous aider, un artiste, Jamie McCartney, a fait un moulage de 400 vagins. Donc, en fait, de 400 entrées du vagin, du clitoris, enfin, de la partie extérieure du clitoris, etc. Et donc, c'est très joli. Hein. Je vous conseille d'aller voir ça sur son site, d'ailleurs, www.jamiemccarthy.com.
On mettra ça
On essaiera de mettre quand même une photo ou deux de son ouais. œuvre, en fait.
Non, mais complètement sur le blog de Radio Canu, ouais. parce que, enfin, de la causerie, parce que du coup, c'est quand même assez impressionnant de le voir. Et puis, entre filles, regardez ça entre filles, parce que vous allez pouvoir en discuter avec vos copines. Là, ça devient très rigolo quand vous êtes là en train de dire, ah, bah, moi, je suis plutôt comme ça, avec un mélange de celle-là, avec un truc un peu comme celle-là, là. Voilà. Et toi? Donc c'est vrai que c'est intéressant de constater qu'il y a une ouverture vers le clitoris actuellement quand même socialement. Et pourquoi une ouverture? Parce que jusqu'ici c'était caché. Donc voilà, hein, le sexe de la femme est caché par une société phallocrate, c'est pas une nouveauté. Alors après, c'est caché aux yeux de qui? C'est surtout caché aux yeux des hommes, parce que finalement, tous les articles qui parlent du clitoris, de tout ce qui est plaisir sexuel de la femme, de tout ce qui est organe génital de la femme, s'adressent aux femmes. C'est pas pour rien qu'on va avoir ce type de sujet dans Marie Claire ou dans Cosmopolitan ou dans Madame Figaro ou dans je ne sais pas, aidez-moi.
Ah, je peux pas t'aider.
Mais voilà, dans ce genre de magazine, plutôt que je ne sais pas moi, un petit encart dans Le Monde, dans Libération, dans Charlie Hebdo, dans... Mmh. Voilà. Parce que des bites dans ces magazines, on en voit. Mmh. Ou du moins, on en parle. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un clitoris? Parce que ce n'est pas... Alors déjà, ce n'est pas un mot grec qui s'écrit avec des Y... et des trucs comme ça. Ça s'écrit comme ça se prononce. C'est l'organe du plaisir chez la femme. C'est composé d'un capuchon, donc il y a un morceau de peau qui est au-dessus du gland. Le gland qui est lui-même positionné aux abords de l'urètre, qui nous sert à faire pipi. Et puis le clitoris est composé d'un corps caverneux et de bulbes. Donc c'est un organe complexe à part entière, dont la partie visible, en fait, qui est composée du capuchon et du gland, visible ou parfois quasiment pas, ou parfois tout à fait proéminente, hein, n'est pas la totalité de l'organe. Et surtout, c'est un organe, on a tendance à dire le clitoris et le vagin, blablabla, ça en fait partie, ça fait partie de tout un système, qui est terminé par des terminaisons nerveuses et qui a aussi des terminaisons au niveau de l'anus et dans la plupart des parois du vagin. Et c'est pas juste le petit bouton au-dessus de l'entrée du vagin qui va servir, qui sera le clitoris.
Tu veux dire que les hommes qui pensent que c'est là que se trouve le bouton on-off, ou les femmes d'ailleurs qui pensent ça, pour les lesbiennes ou bisexuelles, en fait, se gourrent, quoi. Ce n'est pas un bouton on-off.
C'est ça. déjà, c'est pas forcément un bouton. Ça dépend de l'anatomie de chacun. Puis c'est pas forcément on-off dans le sens où... Et puis, il y a des personnes qui, de toute manière, c'est leur plaisir. Autant il y a des personnes qui ont très peu de plaisir de la stimulation de la partie interne du clitoris, autant la partie externe, c'est pareil. Il y a des gens qui sont très peu sensibles, ou trop aussi, au point que c'est pas... Voilà. Et c'est comme un gland...
Agréable, du coup. Hein? Si c'est trop sensible, c'est au point que
c'est
pas...
Voilà, au point... Et puis c'est, en comparaison avec l'appareil génital masculin, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, tout au bout d'un gland, c'est hyper sensible. Suivant les hommes, ça peut l'être trop, ça peut être pas du tout le point le plus érogène chez eux, etc. Donc c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on a tendance à oublier que c'est tout un organe, et pas seulement une partie d'un organe, et que ça fait partie du vagin aussi, et que c'est... Toute la machinerie du plaisir et de l'orgasme chez la femme, c'est voilà.
C'est plus complexe que ce qu'on nous montre dans les pornos. Quoi.
C'est ça. Alors, oui, parce qu'en plus, dans le porno, on norme le sexe féminin comme on norme le sexe masculin. Hein. Et puis, il est impossible de trouver un objet de comparaison en tant que femme. Enfin, c'est comme s'il y avait un moulage standard pour toutes les gonzesses, pour parler vulgairement.
On en parlait pendant la prépa, il faut rappeler que dans l'univers du porno, il y a beaucoup de c'est pas une vaginoplastie en tant que telle, mais c'est de chirurgie esthétique de l'entrée du vagin qui sont faites pour qu'elles soient normées, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit.
C'est ça,
dans mon casque, ça marche, mais dans le casque en fait. Voilà, pardon.
C'est ça, c'est que dans le porno, le modèle qu'on donne, c'est il est hyper normé, et à partir de là, c'est encore plus compliqué de faire découvrir aux femmes qu'elles ont leur propre sexe, qui va avoir sa propre forme et son propre et voilà, et qu'il n'y a pas à être belle de la fouf, quoi. Enfin, ça aussi, j'aimerais petite parenthèse. Alors, les hommes, eux, le complexe qu'ils vont avoir, c'est de se dire, est-ce que j'en ai une grosse ? Nous, c'est est-ce que j'en ai une belle ? Donc voilà, c'est un petit peu... Alors, on en parle moins facilement, et je pense que toutes les filles, comme tous les hommes, ne se posent pas ce genre de questions. Enfin, on n'est pas obligé d'en passer par là. Mais je sais qu'il y a beaucoup de filles qui se posent cette question, est-ce que... est-ce que c'est joli, quoi ? Est-ce que c'est appréciable ? Est-ce que ça donne envie de regarder, d'y aller avec les mains, avec la bouche, avec tout ça ? Et en fait, le porno, là-dessus, met des complexes hallucinants parce que, comme on le disait pendant la prépa, le modèle pour refaire des entrées de vagin dans le porno, c'est quoi ? C'est un modèle de 14 ans ?
Ouais, c'est ce qu'ils disent, voilà, c'est le fameux 14-16 ans.
C'est...
Ça fait froid dans le dos, hein, je trouve. Mm-hmm.
Donc voilà.
Enfin, surtout dans le porno américain, d'ailleurs. Dans l'article que j'avais lu, il disait, dans le porno américain, aujourd'hui, la mode, c'est l'entrée 14-16 ans, ils appellent ça comme ça. Mmh. Voilà.
Donc, devant tant de poésie...
Mmh. Non, mais ça craint. Hein.
Voilà, il était temps de parler un petit peu du clitoris, et non pas comme un organe aussi qui serait uniquement passif. Parce que voilà, le clitoris, c'est un organe qui répond à des stimuli, et qui sont pas forcément des stimuli physiques. Comme chez l'homme, il y a aussi tout un stimuli psychosexuel. Voilà.
Et d'ailleurs, il y a une vidéo qu'on mettra sur le blog. Alors, je ne me rappelle plus du nom de la personne qui fait la vidéo, la sexothérapeute, ou non pas sexothérapeute,
non,
gynécologue.
C'est Odile Buisson, je crois, si je ne me trompe pas. Mmh. Et elle est obstétricienne gynécologue, je crois.
Mmh. Et elle donne des exercices dans sa vidéo. Elle explique que le clitoris est entouré de muscles et qu'on peut jouer avec comme un homme joue avec sa verge. Mmh. Et j'ai trouvé ça bien de le dire. Ouais, pas juste de le laisser un truc comme ça, comme tu dis, une sorte de on sait ce que c'est, mais on n'en parle plus. Là, il y a quand même l'idée de dire, maintenant on sait ce que c'est, mais il faut s'en servir et vous avez le droit de vous en servir.
Et
c'est
puis
pas honteux. Quoi.
C'est ça, puis d'apprendre à savoir comment il marche pour pouvoir le maîtriser, pour pouvoir ne plus être, comme je disais, passive dans le plaisir, parce que c'est pas forcément une finalité en soi d'être sexuellement dominé, parce que ton plaisir est censément émane de celui de l'homme qui introduit sa verge en toi et devient
héros, quoi.
Ah non, mais c'est toutes les allégories autour du rapport sexuel et du plaisir de la femme ressemblent à ça, et c'est inadmissible.
Juste pour calmer les mecs, j'ai recherché ce qu'on en parlait à la prépa. La taille moyenne du pénis en France, c'est 14 cm, hein, c'est la taille moyenne, voilà. Et la durée moyenne d'un rapport sexuel en France, c'est 1 minute 10. C'est pour éviter tous les gens qui... voilà, c'était juste pour ramener ces messieurs un peu sur terre et leur dire qu'il y a du boulot.
Voilà, puis
pas pour grandir, mais pour prendre du plaisir.
Et encore une fois, pour l'homme comme pour la femme, à un moment donné, si tu veux prendre vraiment ton pied, t'as pas intérêt à considérer le sexe comme quelque chose de purement mécanique.
Tout à fait.
Voilà, va falloir te laisser aller un petit peu, découvrir ton corps et pas seulement ce qui est entre tes jambes. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'explique très bien sur un site qui s'appelle commentfairelamour.com. Si, je vous jure, ça existe.
C'est vrai.
Voilà, et qui parle un petit peu du clitoris et de la. Enfin, c'est un site qui s'adresse aux garçons.
D'accord.
Mais pas que. Enfin, tu es une fille, tu peux le lire aussi, mais qui s'adresse aux jeunes garçons et du coup, en leur expliquant qu'à un moment donné, t'es pas obligé de foncer comme un grand malade dans ta copine pour ta première fois. Que voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent être sympas. Et c'est très bien fait, avec des termes très adaptés. J'ai trouvé ça pas mal. Et.
Vas-y,
t'attends. Je vais accélérer un petit peu, mais pour finir sur cette question de toute l'image qu'on a du clitoris, il y a aussi toutes les légendes autour du sexe féminin, du clitoris. Voilà, je pense à cette image du vagina dentis dans un film.
Teeth. Les dents.
Oh là là. Donc voilà, où c'est un énorme vagin plein de dents et tout, donc ça fait peur et tout. Ou alors, comme on disait en début d'émission, le clitoris c'est un bouton.
Ouais.
Un truc on-off, mais bon, c'est pas sans rappeler non plus aussi le bouton qui déclenche la bombe atomique ou ce genre de choses. Et puis ouais, enfin, comme si le clitoris était le saint graal du plaisir chez la femme, donc il y a tous ces types qui vont partir en quête de clitoris. Ouh, ça y est, je l'ai trouvé, hop, on va y aller un petit peu comme ça, bim, ça marche pas ? Oh non, mince, comment on fait ?
Ouais, bon, c'est que c'est présenté comme étant la solution à tout.
C'est ça.
Souvent dans les magazines masculins, là, je vais dire, parce qu'il y avait des féministes qui avaient souligné que c'est dans Men Health, je crois que c'est ça le nom du magazine, qu'ils avaient fait un article qui était pourri, qui disait vous la tiendrez, voilà, après elle pourra plus passer de vous parce que vous saurez toucher le bouton magique. Mais c'était écrit comme ça, quoi.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est appréhender le corps de l'autre, mais encore une fois, pas pour partager, mais pour dominer.
Il y a un petit côté dans toute cette imagerie, excusez-moi, mais de l'homme qui va vaincre la femme, enfin le plaisir de la femme, comme si c'était un monstre ou comme si c'était une épreuve. Donc bon, alors quand on parle de devoir conjugal, c'est pas forcément une épreuve, c'est pas les 12 travaux d'Hercule, c'est pas tu n'es pas obligé de te rendre la vie impossible pour satisfaire ta compagne.
Et tu n'es pas obligé de te plier au devoir conjugal.
Et tu n'es pas obligé de te plier au devoir conjugal. Donc voilà, reste calme et arrête de voir le vagin et le clitoris comme une espèce de monstre sanguinaire qui s'en prendrait à ta réputation d'homme. Voilà.
Mais c'est la course à la performance, tu sais.
C'est
le côté, est-ce que tu as joui, est-ce que tu jouis bien, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et en fait, du coup, c'est assez... je pense que les hommes se mettent la pression entre eux connement, mais c'est pas les plus opprimés de ce côté-là, je pense. Par contre, les femmes, du coup, ont une pression énorme parce que de toute façon, Jean-Yves vous en parlera après.
Oui, bah,
parce que j'allais partir sur le sujet d'après.
Non, mais tout simplement parce que ton plaisir est censé venir de celui de l'homme. Ouais. Et c'est ce qu'on t'inculque directement ou indirectement depuis que t'es petite.
Ah, c'est emmerdant quand t'es lesbienne, du coup. Hein,
puis
c'est...
voilà, quand t'es lesbienne, mais quand t'es lesbienne, tu prends pas plaisir, voilà, voyons. C'est pas ça l'idée.
C'est de là que vient ce truc-là, en fait.
Ouais. Non, mais c'est ça. C'est tout. Puis de toute manière, c'est toujours une question de domination. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux garder la femme, bon, déjà, tu l'autorises pas à devenir lesbienne, hein, parce que sinon, elle va. Penser qu'elle a beaucoup trop de liberté, c'est pas bon pour toi. Et puis tu lui fais croire qu'elle est totalement dépendante de toi. Enfin, c'est ça qu'un oppresseur fait en général. Donc là, c'est pareil. Donc bon, quand tu découvres que toi, femme, tu peux être autonome dans ton plaisir et voir le partager avec autre chose qu'un homme, c'est c'est fantastique.
Oui, voilà. Je peux me permettre. En fait, c'était pour rebondir sur la vidéo d'avant, en fait. Alors, ouais. Je sais pas si tu as eu le temps de la voir, toi, Jonathan, ou toi, Clara.
Moi, je voyais c'est le vagin, ce grand inconnu, ou le clitoris, ce grand inconnu.
Je crois que c'est un truc dans ce genre-là. Et alors, juste vite fait, moi, je le savais pas du tout. C'est qu'elle parle en fait justement des travaux en fait autour du clito, etc., de la connaissance scientifique et médicale autour du clito. Et elle disait en fait la première. Alors. Comment elle a exprimé
ça ? La première cartographie.
La première cartographie, elle date de...
1998.
Ouais, c'est ça.
Ah oui, mais c'est très récent.
Et la première IRM de 2005.
C'est juste incroyable.
Mais
quoi.
Alors déjà, on a surexposé le phallus. Et on, comme tu disais, pendant la prépa, au profit de la négation du vagin, ça se dit ça comme phrase, c'était presque ça.
En niant le vagin, quoi.
Et voilà, et à partir de là, C'est que aujourd'hui, on va considérer que c'est pas éthique, qu'avec l'égalité homme-femme qui est quand même en train de progresser, il y a toute la question du plaisir féminin et de l'anatomie féminine qui est un petit peu. Il y a pas si longtemps que ça, les gynécologues aussi, ils étaient surtout là, non pas pour t'apprendre comment ton corps il fonctionne, mais pour voir si tu essayes pas de tuer un bébé que tu as conçu illégitimement ou ce genre de choses. Enfin, à la base, on s'intéresse au sexe de la femme. Pas par pur intérêt, mais par pour tenir ce, enfin pas par pur intérêt du sexe, ouais,
pour
en soi, mais
pour l'intérêt des hommes en fait.
C'est ça. Ouais. C'est encore une fois pour t'empêcher de faire des enfants n'importe comment, sans qu'on sache de qui ils sont, et puis aussi pour, enfin s'il te plaît, ne prends pas de plaisir. Tu pourrais croire que tu es indépendante. Non, mais c'est, enfin faut pas déconner. Et dernière petite chose dont je voudrais parler, c'est de l'éjaculation. Voilà, parce que les femmes éjaculent. Donc, et ça sort par l'urètre aussi, messieurs, donc tout pareil que vous. Donc c'est pas du tout l'histoire des femmes fontaines, hein, c'est deux choses différentes. Non, c'est juste la stimulation d'une glande qui est à côté de la vessie, qui s'appelle la glande de Skene, qui permet en fait à la femme d'éjaculer. Donc voilà, c'est une glande qui ressemble un petit peu à la prostate. Donc toutes les femmes n'éjaculent pas à la même intensité. Et ce n'est pas encore une fois le phénomène bien connu de la femme fontaine.
Mais qu'est-ce que la femme fontaine, qui est une expression inventée par le porno.
Oui, aussi.
Qui n'est pas une expression courante au départ.
Non, mais puis parce que ça n'a. Enfin, moi, là où je dis ça, c'est parce que ça n'a pas de lien direct avec l'orgasme. C'est-à-dire que tu peux provoquer cette éjaculation, et d'ailleurs, comme on peut provoquer une éjaculation masculine aussi en titillant la prostate. Hein. Donc, c'est complètement différent de l'orgasme.
Jean-Yves, il est mort de rire parce qu'il se rappelle de son sujet sur le massage prostatique il y a quelques temps.
Et voilà. J'y ai repensé en écrivant tout à l'heure, et puis je m'étais dit, il faut quand même dire que le massage prostatique, c'est bien pour les hommes. Et pour les femmes. Voilà. Et que bon, ça fait du nettoyage en tous les cas, au pire, c'est pas malsain. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça ne peut être que bon pour la santé.
Le plaisir, voilà. C'est bon pour la santé.
C'est ça, tu peux pas. Enfin, bref. Voilà pour le clito.
Ben merci.
C'était solennel.
C'était, voilà, ça aurait bien mérité la petite. L'effet cathédrale.
Qu'on n'arrive pas à voir ce soir.
Bon, voilà. Musique. On s'écoute de la zik ?
Bah oui, un petit peu.
Eh ben allons-y.
Eh bien, vous êtes bien de retour dans la causerie sur Radio Kenu, et c'était les Stonettes de Jesus avec Here Come the Robots.
Ce sont des Ukrainiens, c'est ça ? Je ne dis pas de bêtises.
C'est ce que voilà.
C'est ce qu'on a trouvé. Ça se trouve, ils chantent de la merde. Donc... Non.
Non, mais ils chantent en anglais quand même.
C'est pas vrai. C'est vrai. Et en plus, on a traduit les paroles de celle-là et j'ai rien compris parce que c'est des gens, ils font de rock psyché. Et c'est vraiment psyché, en fait.
Hein. Ça part en couille dans tous les sens. je le cite. Il y a un morceau qui s'appelle I'm the Mountain, mais qui dure 14 minutes, que je voulais mettre à la base, qui est magnifique. Qui est vraiment magnifique. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est magnifique.
Mais c'est n'importe quoi. Ouais. Mais c'est magnifique.
Et du coup, Jean-Yves, tu veux compléter sur le clito, sur les gonzesses, sur...
Alors, je ne reprendrai pas ces mots, mais ouais, en fait, moi, je suis tombé via un réseau social, en fait, sur un truc qui s'appelle, sur un site internet qui s'appelle plaisirdeneuf.fr. Et est-ce que tu peux juste baisser un peu mon
casque ? Je veux baisser ton casque,
ouais, s'il te plaît. Je m'entends très fort. Merci. Et donc, en fait, Plaisir de Meuf, c'est quoi ? Alors, Plaisir de Meuf, c'est de la BD sur... Enfin, c'est des planches de BD, pas que. Il y a aussi des liens, il y a aussi quelques petits articles à lire. Et qui est autour, effectivement, des plaisirs des meufs, des interrogations, etc., etc. Donc, avant d'essayer un peu plus de vous détailler un petit peu ce qu'on peut trouver sur les planches et tout ça, je voulais essayer de recontextualiser comment que c'est né, etc., etc. En fait, c'est un collectif de six femmes, de six féministes en fait, lesbiennes, bi et hétéro. Hein, c'est pas juste sur une sexualité à proprement parler, c'est juste sur les sexualités. Pratiquées par les femmes. Et en fait, elles sont parties un peu d'un constat, c'est que l'éducation sexuelle en fait en France demeure désespérément pauvre et détournée de la connaissance de soi et encore plus du plaisir en fait. Hein, on revient toujours sur ça, hein, c'est-à-dire que on nous apprend les fonctions mécaniques de toutes ces choses-là, mais pas les notions de plaisir qui se trouvent derrière. Mmh. Et donc, elles disent, je reprends des choses que j'ai retrouvées sur leur site, hein, donc des fois c'est au féminin, c'est parce que je reprends leurs mots. Et chacune d'entre elles, en fait, a dû explorer sa sexualité sans avoir facilement accès à une information respectueuse, bienveillante et ouverte. Et en fait, elles ont constaté que bien souvent, en fait, dans la parole publique, on a deux styles de parole publique, et chacun de ces styles comporte des normes, des injonctions. Pardon. Et dont elles disent qu'il faut essayer de se détacher, effectivement, parce que sinon, elles nous enferment dans des schémas qui ne nous correspondent pas. Alors, je pense, là, je me permets, moi, de le prendre aussi, parce que je pense que ça fonctionne aussi pour des mecs. Et donc, alors, elles disent, y a un discours médical angoissant, voire culpabilisant ou dépréciateur sur nos pratiques ou orientations sexuelles. Ou alors, il y a des injonctions hétéronormées et sexistes venant des magazines dits féminins, qu'on a déjà eu loisir ici de détruire un peu. Par exemple, sur les conseils pour satisfaire votre homo lit ou le must de l'été, c'est l'épilation intégrale, etc., etc. Et ensuite, elle disait, le truc, c'est que même entre elles, entre copines, sœurs, cousines, etc., entre femmes, les discussions, elles se résument souvent à des étalages... Alors, je reprends leurs mots, vraiment. Étalages de leurs problèmes. Ce qui n'est pas toujours ce qu'elles disent, effectivement, enthousiasmant. Et ça, je le prends aussi, c'est pas vraiment enthousiasmant pour parler, effectivement, de sexe, en fait. Et ou alors, c'est des injonctions à la performance. Quoi ? Comment ça, tu ne jouis pas à chaque rapport sexuel ? Et effectivement, elles disent, on se retrouve des fois livré à... Enfin, on est juste seul face à des normes dans lesquelles on se reconnaît pas, en fait. Et elles donnent effectivement des normes contradictoires de cette société hétéropatriarcale. Et je pense que ça vous dira à toutes et tous quelque chose. C'est soit une salope au pieu, mais pas trop quand même, hein. Détends-toi, mais si tu ne jouis pas, c'est que t'as un problème quand même. Et puis, la masturbation, c'est sale. Mais tu devrais connaître ton corps. On revient aussi à ce que tu disais avant, Jonathan. Et lâche-toi, mais ton corps doit être au top. Hein, avec, attention, hein, des dimensions à respecter. Ou encore, explore les préliminaires.
mais la pénétration, c'est quand même le must. Voilà, voilà. Et donc de là, en fait, elles, avec leurs expériences, parce qu'elles ont aussi... j'aime bien parce qu'elles se présentent, en fait. Elles disent un peu d'où elles viennent. Et elles disaient, en fait, elles viennent de collectifs étudiants féministes. Et c'est dans ce cadre-là qu'elles ont testé des ateliers discussion. Alors, retenez un peu tous ces trucs-là dont je vous parle. Et un jour, il y a une pote à elle qui leur a dit, écoutez, moi, pour un travail un peu, enfin, pour un travail universitaire, il faut que je fasse un truc autour du plaisir féminin, etc., etc. Donc, de là, elles se sont dit, bah tiens, ça peut être intéressant quand même de se retrouver, de causer de nous. Individuellement, collectivement, essayer de voir. Et donc, elles ont fait cette première fois et elles ont donc enregistré la vidéo, elles ont aussi le son. Et de là, elles se sont dit, tiens, on les a retranscrits. Et bah, tiens, c'est intéressant en fait, parce qu'on pourrait essayer d'aller au-delà en fait, enfin, de faire quelque chose encore de plus. Et c'est donc là qu'elles se sont dit, tiens, est-ce qu'on passerait pas par de la BD en fait ?
J'ai juste une question. Donc, les groupes de discussion étaient enregistrés, ouais. Mais il n'y avait pas dans le but de le diffuser au départ.
Non, alors.
C'était plutôt dans un outil, on va dire, de recherche, quoi.
Ouais, c'est ça. T'as alors, moi, je le place comme ça. Alors, peut-être que j'ai mal lu ou
non,
mal compris,
ça, ouais.
Mais je pense que c'est ça. Et effectivement, de là, elle se disait, bah, c'est vachement intéressant parce que c'est quand même, en nous re-regardant ou en calculant un peu ce qu'on se dit, qu'on peut aussi se rendre compte, en fait, et c'est pour mieux modifier les mécanismes sociaux qui nous bloquent. Bah de voir les schémas dans lesquels on est bloqué, dans lesquels on les des fois lesquels on reproduit en fait sans même s'en apercevoir en fait. Donc voilà, et donc là elles sont parties sur l'idée de faire de la BD et elles ont contacté une dessinatrice féministe, Hélène Bonardi. Alors elle aussi, alors je donne un petit truc, c'est alors elle est corse et en Corse il y a des châtaigniers. OK? Retenez bien, châtaignier, vous voyez. Et de là, elles ont fait un visuel autour de justement le plaisir de meuf, où en fait il y a une forêt de châtaigniers qui dessine en fait un sexe féminin, et je trouve que c'est très très joli. Et à la soirée d'inauguration qu'elles ont fait un peu de leur site et tout, en fait elles ont demandé aux femmes qui venaient de leur dessiner des châtaignes. Voilà, donc on a plein de petites châtaignes aussi sur le site que vous pourrez voir, bah, de dessins en fait que des femmes ont fait autour de bah, justement la représentation aussi du sexe, de son sexe en fait. Donc voilà, c'était juste très drôle, je trouve que c'est très très mignon et très très drôle, pardon. Et donc voilà, donc c'est on part sur du dessin, alors sur le site internet qui est donc, je vous le redonne, hein, c'est plaisirdemeuf.fr. En fait, il y a plusieurs planches, il y a, je dirais, 6-7 planches. Alors je crois qu'elle voulait en mettre une toutes les semaines. Alors là, à vrai dire, c'est à peu près une tous les mois.
C'est compliqué comme objectif, une par semaine, hein, franchement.
Ah ben, clairement, oui. Effectivement, moi, quand je l'ai lu, ouais. Je me dis, waouh, c'est ambitieux, costaud, quoi. Ouais, clairement. Bah, surtout que, enfin, oui, tu t'en vis pas, quoi. Donc, il faut aussi faire d'autres choses à côté, des fois. Donc voilà, enfin bref. Et ce que je voulais vous dire aussi, alors c'était quoi ? Pardon, hein, je relis mes petites notettes.
Bah que donc il y avait aussi 6-7 planches sur le site.
Ouais, c'est ça. Alors ouais, je reviens sur le site, effectivement. Sur le site, effectivement, c'est alors la première date de octobre 2015, qui est intitulée Dérèglement climatique. Et on les voit, en fait, elles sont entre copines. Ah non, pardon. Je vais un peu casser le truc. C'était comment ça fonctionne en fait leur groupe de discussion. Je voulais en parler parce que je trouve que c'est hyper intéressant et au-delà d'en faire une BD, etc., je trouve que même à nous individuellement, ça peut nous apporter des choses. En fait, elles se retrouvent, chacune a des petits billets vierges, des petits tickets, enfin des petits morceaux de papier. Elles écrivent dessus des choses qui se rapportent à leur sexualité ou à leur sexe et sur lesquelles elles s'interrogent. Elles écrivent, elles en font chacune 2-3, elles mettent tout ça au milieu de la table, elles mélangent. Et ensuite, on en redistribue 2 ou 3 à chacune. Et là, en fait, l'idée, c'est de les lire les unes après les autres et ensuite d'essayer d'interagir avec ce qui a été apporté. Donc aussi parce que des fois, on a con, on se dit, ah ben tiens, en fait, je suis pas la seule qui se pose une question là-dessus. Et je trouve que c'est, voilà, je trouve que c'est hyper intéressant et que je pense que ça peut coller à plein, plein de modes de fonctionnement pour plein d'autres choses aussi. Et alors, je reviens donc au blog et aux planches, de bande dessinée, et à celle qui s'appelle effectivement Dérèglement climatique, qui est la première. Et en fait, on les voit, elles parlent, elles s'interrogent sur le temps nécessaire pour atteindre la jouissance aussi, et sur ce temps qui varie en fait aussi. Comme tu disais, il n'y a pas eu une norme, il n'y a pas un temps prédéfini en fait, et qui varie donc effectivement selon les lieux, l'esprit fantasmagorique. Le ou la partenaire. Mais là c'était aussi seul en fait.
Ou seul, oui.
Là c'était seul. Et c'est super intéressant parce qu'il y en a une, elle dit, elle culpabilise en fait quand elle se masturbe sous la douche. Parce qu'il y en a une, elle dit, moi, sous la douche, ouf, j'adore, quoi. Ça peut durer super longtemps et c'est super bon. Et l'autre, elle dit, ben moi, en fait, je culpabilise quand l'eau, elle devient froide. Parce que je me dis, merde, j'ai gaspillé toute l'eau de la planète. Et c'est super drôle, comme les pressions qu'on arrive des fois à se mettre, à se culpabiliser sur des choses qui sont anodines. Parce que l'autre, elle lui dit, mais alors là, moi, carrément, ça me dépasse. J'en ai rien à foutre à ce moment-là de la planète. C'est juste... Ben, je me fais super plaisir en fait. Donc c'est super intéressant de retrouver justement des discussions entre personnes qui partagent certaines choses, en tout cas un sexe, on va dire, semblable, plus ou moins, comme on disait. Mais derrière, on discute. Il y en a aussi un qui relate, il y a aussi une planche effectivement qui relate leur rencontre et ces techniques utilisées, comment on met en place ce dialogue par les petits billets. Il y en a une autre, c'est sur la pénétration vaginale, dont certaines ont envie. Elles savent que cela ne les mènera pas à l'orgasme, mais elles aiment cela. Et alors elles s'interrogent. Alors est-ce qu'on aime ça parce que c'est par envie ? Est-ce que c'est par automatisme ?
Par norme sociale ?
C'est ce qu'une dit. Est-ce que c'est par représentation en fait ? Il faut qu'il y ait pénétration, donc on la demande, on en a envie en tout cas. Et il y en a une qui dit, moi j'aime bien, sauf qu'en fait le rapport sexuel, il s'arrête une fois que le mec a joui quoi en fait. Et c'est vrai qu'il y en a une autre qui dit, eh ben non, en fait c'est là peut-être qu'on devrait dire, hé chérie, pour moi c'est pas fini, tu te remets au taf. Et je trouve que c'est super intéressant parce que, enfin après je à la rigueur, si vous avez envie de commenter Jonathan et Clara, je trouve que c'est super intéressant en fait.
Ben, moi j'aimerais juste faire une petite remarque.
Vas-y.
Les mecs, vous pouvez continuer après avoir éjaculé. C'est vrai, vous avez le droit, vous pouvez continuer. Vous pouvez garder le kiki tout dur et continuer. Ça marche. C'est vrai.
Et après, encore une fois, il y en a d'autres planches, c'est sur la stimulation, sur le sentiment d'avoir un temps imparti pour jouir. Il y en a une qui dit, si au bout de 2 minutes, j'ai pas joui, je me dis, merde, c'est pas bon, quoi.
Mais ça, c'est des normes. Hein.
Mais oui.
C'est des normes sociales, faut pas se mentir. Hein.
C'est exactement ça, en fait. Et je trouve que, voilà, moi, alors je suis un mec, effectivement, on pourrait se dire, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc, allez sur ce site, je le rappelle encore une fois, c'est plaisirdemeuf.fr. Il y a tout qui est accessible, gratos, etc. Et normalement, ouais, je suis un peu long, et normalement, ça devrait être une BD selon leur projet pour décembre 2016. Donc, j'ai hâte, personnellement.
Ben ouais, moi, je trouve le projet très intéressant et surtout, j'ai zioté 2-3 planches comme tu nous avais passé le lien. Il y a quelque chose que moi, je trouve bien, c'est la vérité du ton. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un ton militant, on n'est pas dans un ton niaiseux, comme diraient les Québécois. On est dans un une vraie discussion entre copines ou entre personnes qui se connaissent, et du coup c'est intéressant parce que ça dédramatise quelque chose qui n'a pas à être dramatique. C'est-à-dire que ça désamorce en fait plutôt que de dédramatiser. Et puis tu parlais du fait que t'es un mec, moi je pense que les mecs ont tout intérêt à le lire. Parce qu'ils vont apprendre des trucs super intéressants, genre que leurs copines quand ils sont hétéros, ça marche pas tout à fait comme ils croyaient et ça marche pas comme comme dans les pornos, non, en fait.
Ah ouais.
C'est ça.
Et que justement, il y a aussi toute cette individualité-là des sexualités.
Moi, je pense que c'est bien de libérer tout le monde, en fait.
Oui, c'est ça. Et alors, je voulais juste rajouter ça avant, c'était sur leur présentation, effectivement. C'est qu'elles-mêmes, elles disent c'est pas parce qu'on est féministe qu'on est sexuellement libéré, qu'on est des super women du sexe, quoi. Elle dit non, elle dit juste détecter les oppressions, toujours se questionner. On en revient presque sur le premier sujet, sur le doute, ou en tout cas sur l'interrogation constante.
Seul le doute est révolutionnaire.
C'est ça, c'est de se questionner sur ce qu'on pourrait avancer dans la connaissance de nous-mêmes. Pour elle, ça reste le processus d'émancipation, en fait. C'est en s'interrogeant, en parlant, en expérimentant, qu'on peut s'émanciper en fait des schémas prédéfinis en fait.
Et moi, je les remercie de se présenter en disant qu'elles ont entre 24 et 28 ans, qu'elles sont toutes issues d'un milieu plutôt aisé intellectuellement.
Oui, je l'ai pas dit, mais
c'est-à-dire que d'une sorte d'une bourgeoisie intellectuelle, c'est pas méchant quand je dis ça, mais elles ont fait des études, elles sont, voilà. Et que donc, du coup, c'est bien parce qu'elles ont l'honnêteté de le dire. Alors que je trouve que dans beaucoup de sites militants, quel que soit le sujet, hein, on oublie de dire d'où on parle.
Ouais,
du coup, on donne des grandes leçons comme ça, mais on oublie de dire d'où on parle. Alors quand on sait d'où parlent les gens, ce qui était un vieux truc de 68, dis-moi d'où tu parles et je saurai qui tu es, et ben, en fait, je trouve que c'est intéressant parce qu'elles le font et c'est, du coup, ça permet de voir dans quelle sphère on est et aussi, d'ailleurs, du coup, peut-être potentiellement de les interroger sur des choses qu'elle ne, à côté de lesquelles elle serait passée.
Mais justement, et c'est pour ça en fait qu'elle fait cette mise au point-là, elle dit parce qu'à un moment donné, ce qu'on expose là, en tout cas ce que vous voyez là, ce que vous lisez là, c'est nos histoires. Elle dit, effectivement, et elles remettent très clairement en place, hein, elles disent... On est blanche, cisgenre, on est valide, diplômée de grandes écoles ou d'universités, Donc effectivement, je trouve que c'est très honnête. Oui, c'est justement, ça. C'est très très
mais moi,
honnête.
Je trouve ça
parce
bien.
Que ça manque.
Je trouve ça bien parce que du coup, effectivement, ça permet à des gens qui, par exemple, n'auraient pas les mêmes réalités, pour des raisons sociales, par exemple, de leur dire, alors là, ça, je comprends votre questionnement. Par contre, moi, je le vois comme ça, parce que dans ma réalité... Il y a cet échelon en plus, ou cette différence-là, ou cette difficulté-là, que vous n'avez plus, ou que vous n'avez jamais connu, ou que vous n'avez pas, ou etc. Et c'est intéressant parce que ça ouvre le dialogue. Et en fait, quand on sait d'où les gens parlent, c'est aussi lever une oppression.
Oui.
Parce que quand vous savez d'où les gens parlent, bah, au moins vous êtes en capacité de dire, il dit ça parce qu'il a ce vécu-là, ou elle a ce vécu-là.
C'est ça.
Et c'est un, voilà. Je trouvais ça vraiment très honnête de leur part.
Oui. Ça fait du bien. Voilà, je rappelle donc, effectivement, vite fait, c'est plaisir de meuf, au pluriel, tout au pluriel, parce que quand même, on va pas s'arrêter à un plaisir. Et, .fr, pardon. Et ben, on passe à la musique, vite, vite, vite!
Boring life, wreckage in my mind. future?
Et si, un futur, bah juste là maintenant, c'est nous. Oui, c'est toujours la causerie sur Radio Canu. Et on vient de s'écouter No Future des Kings Queer. Et je vais rajouter juste que les Kings ont sorti un nouvel album avec des titres que vous avez déjà entendus dans la causerie. Et j'en profite pour les remercier parce que voilà, on les savait avant la sortie de l'album. Donc voilà, n'hésitez pas, les Kings Queer avec l'album, c'est...
Amour et Révolte 2, le retour de la vengeance. Non, ça c'est moi qui le rajoute.
Et bien, on se termine. Non, on va pas se terminer, mais on va terminer rapidement l'émission et ça fait sourire en la technique. Bravo. Non, allez, on se reprend. On va terminer avec des petites news très rapides. Fab, tu as des infos pour le 28.
Je commence le 28. Alors, d'abord avec le collectif Action Anti-Pub. Vous savez que c'est la journée internationale contre la publicité. Je crois que c'est le 28, d'ailleurs, peut-être une bêtise. Alors, ils font une réunion au CEDRATS à 18h pour les futures actions anti-pub. Et allez sur les sites, parce qu'ils vont donner les infos au dernier moment, comme toujours, pour l'action qui va être faite dans l'après-midi du 28. En fin d'après-midi, a priori, pour qu'il y ait un maximum de monde. Mais pour l'instant, il n'y a pas le lieu, la date et l'heure, parce que sinon, les gentils policiers qui nous protègent seraient déjà là pour protéger le capital, c'est-à-dire la publicité.
C'est ça, JCDECO.
Voilà. Et donc, ensuite, il y a aussi un appel à une réunion du collectif pour la Nuit Rouge. Alors, ça sera en lien avec ce que tu annonceras, Jean-Yves, après. Alors, c'est à 17h ou 18h. Ou 18h30, vous aurez compris qu'il n'y a pas encore d'heure et tout à fait de lieu pour l'instant. Donc je vous invite à aller sur les différents sites d'information alternatifs pour trouver voilà, où à Lyon se tiendra la réunion pour préparer la Nuit Rouge qui sera en lien avec...
Avec le rendez-vous donc du 31 mars, comme vous le savez, c'est la nouvelle journée de mobilisation. En espérant qu'on ne s'arrêtera pas encore une fois à une journée de mobilisation, il faut vraiment qu'on aille plus loin, je pense, vraiment, 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 parce que je crois que le gouvernement ne reculera pas, même si par des effets de com', ils vont nous faire croire, ou en tout cas tenter de nous faire croire qu'ils ont allégé les choses, que ce ne sera pas si terrible pour nous, ce sera toujours plus la merde pour nous, pour les patrons, donc ça ne va pas, ça ne va pas le faire du tout. Donc rendez-vous à Lyon, à la manufacture des tabacs.
Métro sans souci. Pour ceux qui ne voient pas où c'est.
Ouais, merci. À 13h30, donc le 31 mars. Voilà.
Et le but est d'être au moins 40 000. Alors, mais disons-le, c'est ça, il faut viser ça, c'est-à-dire les manifs du CPE.
Ah, mais il faut.
C'est
ah,
pour
oui,
ça,
oui.
Il faut revenir à ce qui avait permis de faire plier un gouvernement de droite à l'époque. Ce qu'on a aujourd'hui, il est de droite aussi, mais il est de gauche. Mais voilà, mais l'autre était ouvertement de droite et qui avait plié. Donc il faut arriver à être un nombre suffisant dans la rue. Et donc l'appel à la Nuit Rouge, justement, c'est de continuer après. Et pourquoi pas tenir une place la nuit ou un lieu la nuit du 31 au 1er et peut-être même après continuer pour élargir le mouvement pour faire quelque chose qui bloque plus.
Oui, parce qu'il y a aussi, une notion de convergence des luttes. Enfin, parce qu'on a effectivement la loi El Khomri. Il y a encore l'état d'urgence qui continue de limiter nos mouvements, etc. Partout. Et enfin voilà, il y a plein de choses. Et autour des rendez-vous, c'est fini, je crois bien.
Ouais.
Moi, je voulais juste saluer les camarades militants un peu partout en France qui en ce moment montent des petits murs devant les locaux du PS, que ça soit à Villeurbanne, que ça soit en Bretagne, que ça soit partout. C'est en lien avec la ZAD de Notre-Dame. C'est vu qu'ils veulent expulser des habitants de la ZAD, et ben il faut murer le PS pour qu'ils en sortent plus de leur local et qu'ils laissent la politique à nous, quoi, aux gens. Ouais. Voilà.
Moi, je voudrais juste te dire quand même que le Parti Socialiste a un tout petit peu oublié son histoire, parce que c'est des choses qu'à une époque, il soutenait, parce qu'aujourd'hui, il porte plainte, ce qui est honteux.
C'est ça.
Voilà, alors qu'il n'y a rien de dégradé.
C'est ça.
Voilà, c'est juste la honte, la teon, quoi. Et je vais dire un deuxième truc, parce que c'est important. Il y a l'OCDE qui a sorti un rapport que je vous invite à aller lire, vous allez sur le site de l'OCDE. Il est traduit en français sur la flexibilité du monde du travail en Europe. Et l'OCDE, qui est quand même une officine plutôt très à droite, démontre en fait que plus vous flexibilisez le travail, effectivement, moins vous avez de chômeurs, mais plus vous avez de pauvres. Donc voilà, ça s'appelle juste un effet d'effacement. C'est-à-dire que vous avez des gens qui se retrouvent avec des micro-emplois.
Nous ne serons plus chômeurs, nous serons travailleurs précaires.
Voilà, ou travailleurs très pauvres. Et que ça va dans le sens de la loi El Khomri et des autres lois de flexibilité en Europe. Si même l'OCDE nous démontre que ça craint, faut se dire que ça craint vraiment. Donc le 31,
on tend la ruche.
Voilà.
C'est ça. Eh ben, on va vous laisser là.
Vous embrasser. On va vous embrasser.
Passer un bon dimanche soir. Profitez du fait que demain c'est férié.
Voilà. Bah ouais, j'espère pour un maximum de gens et d'auditeurs, d'auditrices.
Bonne crise de foi, ceux qui peuvent en faire.
Aussi. C'est ça. Bon, bah, je crois qu'il faut qu'on se laisse là, quoi.
Voilà, n'oublions pas les valeurs païennes de ces nombreux jours de congé.
Bonne soirée à toutes et à tous, bonne nuit et puis bonne semaine et au 31 dans la rue. Ciao, ouais, ciao.
Salut, salut.
Et on se quitte avec quoi, avec...
Oui, pardon. Oh, oh, là, attendez, on rebobine. Oh, mais alors, dis-donc, Clara, avec quoi on se quitte ce soir?
On se quitte avec Tears for Animals du groupe Coco Rosie.
Excellent. Eh ben, c'est super. Merci.
Ciao.
Et merci
ciao.
Pour la technique. Salut.
Ciao, ciao.
Love for humankind. plafond.